l'accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, c'est le 10 juin prochain que Recep Tayyip Erdogan devrait normalement inaugurer l'immense mosquée qu'il a commandée il y a 5 ans, construite sur la plus haute colline d'Istanbul. Objet d'un chantier titanesque pas encore terminé, l'édifice, futur symbole de la ville, selon les mots mêmes du président, suscite enthousiasme et critique à la mesure de ses dimensions. À Istanbul, c'est le reportage d'Anand Lauer.
Entrer dans la mosquée, lever la tête au ciel et la sentir tourner. Du sol au dôme principal, 72 mètres s'étirent, qui semblent interminables. Lorsqu'il égrène les autres chiffres, le président de l'association chargée de superviser ce chantier titanesque, Ergin Külünk, sourit comme un enfant sous sa fine moustache blanche.
Notre chantier s'étend sur 4 étages et 32 000 mètres carrés. Nous avons 6 minarets mesurant entre 90 et 107 mètres de haut. Notre dôme principal mesure 34 mètres de diamètre. Au-delà de la mosquée en elle-même, c'est tout un complexe que nous bâtissons, avec un musée, une galerie d'art, une bibliothèque, des ateliers d'art, une grande salle de conférence et un parking fermé de 3500 places. À l'intérieur et à l'extérieur, 63 000 personnes pourront prier en même temps. Sous les dalles à l'extérieur de la mosquée, nous avons installé un système de chauffage électrique. Ainsi, en cas de neige ou de gel, les fidèles ne glisseront pas.
Sur la colline de Chamlaja, la plus haute de la ville, un millier d'ouvriers s'affaire depuis 5 ans à bâtir la plus grande mosquée jamais érigée en Turquie et l'une des plus grandes du monde, l'une des plus modernes aussi. Auprès de ses visiteurs, Ergin Külünk n'oublie jamais de mentionner les fameuses dalles chauffantes ou encore l'ascenseur qu'empruntera l'imam pour grimper le minbar et y délivrer ses sermons à 21 mètres du sol. Il insiste également sur l'acoustique des lieux, qu'on peine à apprécier au milieu de ce concert de marteaux-piqueurs et de fer à souder.
L'un des grands apports de l'architecture ottomane à la construction des mosquées, c'est le système acoustique. L'objectif est que la voix nue, sans micro, se propage à travers toute la mosquée.
Comme à l'époque où les sultans passaient commande d'une mosquée appelée à faire entrer leur règne dans la postérité, la future mosquée géante est sortie de l'imaginaire de l'actuel président Recep Tayyip Erdogan. C'est lui qui, un jour de mai 2012, a annoncé la construction d'un lieu de culte si grand qu'il serait visible aux quatre coins d'Istanbul. Ergin Külünk est un ami de jeunesse de Tayyip Erdogan. Derrière son bureau, bien en vue, une assiette portant la photo du chef de l'État et ses mots « On ne se prosterne que devant Allah ».
Cette mosquée et ce complexe que nous construisons s'inscriront dans l'histoire pour marquer la période de pouvoir de notre président. Non content de pallier le manque de grandes mosquées sur la rive asiatique d'Istanbul, elle complétera la silhouette de la ville en répondant à sa rive européenne. Elle sera l'un des nouveaux symboles d'Istanbul, comme notre président l'a voulu. D'ailleurs, celui-ci suit de très près la construction. Nous l'informons chaque mois de l'avancée des travaux et lui-même partage avec nous ses idées, ses demandes que nous mettons en œuvre.
Chez les partisans du chef de l'État, la mosquée suscite l'enthousiasme, mais l'édifice attire aussi des critiques à la mesure de ses dimensions. Rosa, un épicier qui se décrit comme un musulman pratiquant, est partagé.
D'un côté, il est difficile de s'opposer à la construction d'une mosquée où tant de fidèles pourront prier ensemble. L'endroit est bien choisi, sur une colline, de sorte que la mosquée pourra attirer pas mal de touristes. Mais d'un autre côté, Istanbul avait-elle besoin d'une telle mosquée? Nous avons déjà plusieurs grandes mosquées historiques où les sultans qui les ont construites ont été enterrés et qui sont donc très importantes pour nous. J'avoue que j'ai du mal à comprendre le besoin d'un tel édifice. J'y vois plus une démonstration de force.
Hatice, une retraitée dont les fenêtres donnent sur l'un des minarets, regrette quant à elle l'espace vert qu'était autrefois la colline.
Avant, c'était un parc, une forêt. Ils ont détruit notre forêt.
Mais la colère de cette retraitée, qui ne cache pas son hostilité à l'actuel président, est loin de se limiter aux sapins arrachés. Elle trouve le projet beaucoup trop grandiose, donc orgueilleux.
Notre prophète Mohammed n'aurait jamais approuvé ce déballage de luxe. En islam, la prière est privée, personnelle. Il n'y a pas de place pour l'ostentation ou la fanfaronnade. Tout se passe entre Allah et toi. Quel besoin avait-il de construire un tel endroit ?
Si tout se passe comme prévu, l'immense mosquée sera inaugurée le 10 juin, lors de la nuit dite du destin, à la fin du mois de Ramadan et en présence, bien sûr, de Recep Tayyip Erdogan. Sur la colline, il se murmure d'ailleurs que le chef de l'État pourrait donner son nom à son grand œuvre religieux.
Des jeux qui annoncent une campagne électorale en Bosnie alors que les élections législatives ne se dérouleront qu'en automne. Et en ce moment, ces jeux vidéo qui se moquent ouvertement des responsables politiques corrompus cartonnent sur les réseaux sociaux au grand dam de ceux qu'ils visent. Simon Rico.
Les Bosniens sont connus pour leur humour piquant qui raille avec acidité les mots et les dérives de leur pays. En ce moment, le sujet de plaisanterie, ce sont les prochaines législatives prévues pour le mois d'octobre. Et les plus jeunes s'amusent avec de nouveaux outils, les jeux vidéo, pour se payer la tête de ceux qui gouvernent le pays et qui ne tiennent jamais leurs promesses. Elbeik met ainsi en scène un personnage qui ressemble à s'y méprendre à Bakir Izetbegovic, le chef du SDA, le parti nationaliste bosniaque et membre de la présidence tripartite. Le but du jeu, c'est d'aider Elbeik à gagner le plus d'argent possible en évitant toute une série de pièges, manifestations, véhicules de police, routes pleines de nids de poules. Chaque niveau porte le nom d'une ville de Bosnie. Selon ses créateurs, ce jeu s'adresse aux 100 000 personnes qui attendent toujours l'emploi que leur avait promis Bakir Izetbegovic lors des dernières législatives. Sur les réseaux sociaux, Elbeik fait les délices des internautes avec ses références à l'actualité bosnienne de ces dernières années, du grand mouvement populaire des plénums de 2014 aux manifestations de vétérans qui agitent le pays depuis un an. Mais le leader bosniaque n'est pas le seul homme politique héros malgré lui d'un jeu vidéo satirique. Dans Flappy Faro, le personnage a par exemple les traits de Farudin Radončić, le Berlusconi de Bosnie, partenaire de Bakir Izetbegovic au gouvernement fédéral avec son union pour un avenir meilleur. Autant dire que les partis des deux hommes n'apprécient pas vraiment cet humour potache. Cela montre à quel point nos adversaires sont faibles, ils n'ont rien à offrir, alors ils utilisent des jeux vidéo pour se moquer, peste ainsi le chef des jeunesses du SDA dans la capitale Sarajevo. Quant à Bakir Izetbegovic et Farudin Radončić, ils ont pour l'instant préféré se garder de tout commentaire.
Eh bien, quelle musique ! Bonjour Evmino.
Bonjour Catherine.
Alors l'Europe célèbre ce mois-ci le 200e anniversaire de la naissance de Karl Marx. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que celui-ci alimente les polémiques et les controverses. Faut-il célébrer Marx ? Et surtout, que reste-t-il en 2018 de son idéologie, plus de 150 ans après la publication du Capital ? C'est en tout cas un sujet largement traité dans la presse européenne. Et c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, Eve.
Oui, première polémique qui vient d'Allemagne, de Trèves plus exactement, ville natale de Karl Marx, où il a passé les 17 premières années de sa vie. C'était donc le point de départ logique des festivités dans tout le pays. Samedi dernier, la ville a dévoilé une statue du célèbre intellectuel de plus de 5 mètres de haut, officiellement inaugurée en grande pompe par le président de la Commission européenne. Seulement voilà, la statue a été réalisée par un artiste chinois et est un cadeau de la République populaire de Chine, pays aujourd'hui encore officiellement communiste. Le maire de la ville a eu beau se justifier, argumenter que l'imposant cadeau était diplomatiquement difficile à refuser. Cette décision a été critiquée notamment par les écologistes qui considèrent que le parti communiste chinois n'avait pas à être honoré de la sorte.
Voilà donc pour les premières festivités, Eve, et puis évidemment suivent les premières contre-manifestations.
Oui, car dans ce pays où la répression au sein de la RDA communiste a laissé des traces, c'est le principe même de la commémoration du message politique du philosophe qui pose problème. Le président de l'Union des groupes de victimes de la tyrannie communiste, tout est dans le titre, s'est élevé contre ces festivités. Même message du côté de l'AFD, le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland, qui a récemment rencontré un franc succès justement dans les anciens Länder de l'Est.
Alors à l'opposé, Eve, l'opposé du spectre politique, on critique cette fois-ci la récupération un peu trop pop et parfois mercantile de l'événement.
Billets à l'effigie du philosophe allemand d'une valeur de 0 euro, feux tricolores qui reprennent la silhouette du penseur, un livre à la main, mais aussi tirelire Karl Marx, canard de bain barbus, aimants pour le frigo et autres silhouettes encore aux couleurs fluorescentes, l'Office du tourisme de la petite ville de 100 000 habitants a su capitaliser, si je puis dire, sur l'événement. Et les restaurants ne sont pas en reste. Vous pouvez ainsi profiter du petit déjeuner du prolétaire pour 4 euros ou déguster une bratwurst, la fameuse saucisse traditionnelle allemande, de tous les pays qui nous unit. Clin d'œil à l'international communiste. Une situation décrite avec ironie par le quotidien suisse L'OTAN qui titre l'anniversaire qui aurait fait fuir Karl Marx.
Personnellement, j'adore les petits canards à l'effigie de Marx. Bon, alors il y a pas qu'en Allemagne que cet anniversaire fait grincer des dents. Dans plusieurs anciens pays communistes, une certaine presse européenne s'interroge sur l'opportunité de célébrer Karl Marx.
Oui, c'est le cas notamment de la Pologne, dans le quotidien polonais Gazeta Polska Codzienne, par exemple, proche de la droite nationaliste. On s'offusque de cet hommage rendu par l'Union européenne au père du communisme. Rappelons au passage que le pays avait voté très récemment, c'est en 2016, une loi pour supprimer de l'espace public toute référence à son passé communiste, dont les rues Karl Marx et Rosa Luxembourg.
Et pendant ce temps, deux publications en Grèce et en Ukraine soulignent au contraire l'influence colossale que le philosophe allemand a pu avoir sur le continent.
Cette fois-ci, c'est dans le quotidien ukrainien Den ou encore sur le blog grec Pitsiritos, marqué à gauche. On va même jusqu'à comparer Karl Marx à Jésus-Christ, qui a inspiré bien des massacres en son nom, mais qu'il faut, selon les deux éditoriaux, bien distinguer de l'idéologie politique qui en a été tirée.
Enfin, Ève, nombreuses sont les voix qui soulignent à quel point l'analyse du penseur allemand est encore d'actualité.
Oui, on retiendra pour cela ces quelques mots de Tony Prug, journaliste au Jutarny List, qui assure, je cite, 170 ans après sa publication, le manifeste du Parti communiste, rédigé, je le rappelle, avec son compatriote Engels, propose toujours des alternatives à la production capitaliste et à l'ordre social. Ce que les auteurs du manifeste n'avaient pas prévu, c'est que le capital trouverait dans le travailleur, le consommateur, le plus fidèle. On achète la paix sociale avec l'augmentation de la consommation individuelle et la hausse subséquente de la qualité de vie matérielle. Joyeux anniversaire.
Ouais, drôle d'anniversaire effectivement pour Karl Marx qui n'aurait pas forcément apprécié. Personnellement, je reste très perturbée par le canard de bain barbu. Pas sûr que je le prenne. Merci Ève Minot, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Si l'exposition internationale de Bruxelles en 1958 a remporté un succès considérable, il est certain que le clou en était l'atomium.
Autre anniversaire, donc un peu moins polémique. Il y a 60 ans, Bruxelles accueillait l'exposition universelle. 42 millions de visiteurs découvraient pour la première fois l'atomium construit pour l'événement. Et pour l'occasion, l'exposition se tient dans ce monument, People of 58. Elle revient sur ses découvertes, ses années d'après-guerre, pleines d'optimisme, Lakshmi Lotha.
Le 17 avril 1958, le roi Baudouin ouvre les portes de l'exposition universelle.
Déclare ouverte l'exposition universelle de Bruxelles 1958.
Dans les premières semaines, l'expo de Bruxelles n'avait pas fait les gros titres de la presse internationale.
Les visiteurs du monde entier se déplaceront pour visiter les 110 pavillons. C'est à cette occasion qu'ils découvrent pour la première fois l'atomium, monument aujourd'hui incontournable de la capitale. Les visiteurs admirent des défilés de mode dans le pavillon américain et une réplique du Spoutnik dans le pavillon de son concurrent, l'Union soviétique. C'est le premier engin placé en orbite autour de la Terre. Ils ont également un aperçu de la technologie nucléaire et des débuts de l'informatique. Beaucoup de Belges ont aussi goûté le Coca-Cola pour la première fois. Pour les 60 ans de l'exposition universelle, nombreux sont ceux qui ont partagé leurs souvenirs dans les médias ou à travers les réseaux sociaux. Il y régnait une atmosphère indescriptible d'insouciance et de joie de vivre. 6 mois qu'on ne vit qu'une fois dans la vie, c'est un des plus beaux souvenirs de ma jeunesse, écrit par exemple cet internaute. Mais l'Expo 58, c'est aussi la colonisation et ce zoo humain qui reconstitue un village congolais. Des visiteurs iront jusqu'à jeter des bananes aux familles qui se tiennent face à eux. Les Congolais, outrés, décideront de ne plus jouer les figurants dans le pavillon. 2 ans plus tard, le Congo belge proclamera son indépendance.
People of 58, en ce moment à Bruxelles.
Comme nombre de pays européens, la Roumanie a pris le tournant du bio il y a quelques années, obtenant ainsi de gros rendements en tournesol, colza ou maïs. Mais des projets plus locaux se montent également, à l'image de ce que construit une association sur la propriété d'un ancien manoir dans la grande plaine du Danube, à 1h30 de Bucarest. Reportage Benjamin Rim.
L'association Perticari Davila a été créée il y a 2 ans dans le but de redonner vie à un conac, un manoir et sa grande propriété située dans le sud de la Roumanie. Pour cela, l'association a créé une ferme bio et espère à terme pouvoir contribuer à relancer l'économie locale. C'est ce que nous explique la présidente de l'association, Clarisse Deniaud, l'une des héritières.
La propriété appartient à mes ancêtres depuis des générations, les Perticari. Le parc historique a été dessiné par ce Redon, qui est un paysagiste français au début du XXe. Et les berges ont été redessinées dans les années noires, mais ça reste merveilleusement beau, c'est très très beau. Et puis là-bas, au fond, on voit la serre que l'association a montée l'an dernier. Comme on a créé cette ferme biologique, et c'est tout récent, donc pour le moment, on commence petit et on commence sur une petite surface.
La propriété compte un parc de 15 hectares, 50 hectares de terres cultivables et 100 hectares de forêt, de quoi marier esthétique et production agricole. L'endroit est splendide malgré le délabrement des 2 maisons abandonnées depuis l'arrivée des communistes après la guerre qui ont obligé la famille de Clarisse à s'enfuir du pays. S'en suivent les années noires du régime, avant un retour difficile là aussi après 1990. Mais pour Clarisse Deniaud, l'important est de faire table rase du passé.
Ma mère, ma tante sont parties. Jamais elles ne nous ont parlé roumain. Jamais. Par contre, quand elles parlaient d'Izvor, c'était un paradis. Quand je suis venue pour la première fois en 2005, j'ai vu les maisons dans un triste état avec les corbeaux au-dessus et des papiers partout. Et c'était abominable. En fin 2016, on a décidé de créer une association pour essayer de redonner vie au lieu et d'en faire quelque chose de beau, de renouer avec le village, que ça puisse redevenir un poumon vert, un endroit de vie, un endroit où les gens du village pouvaient venir. Que ça soit pas juste une ruine à corbeaux.
Rénover les 2 maisons coûterait une fortune et serait inutile car la famille ne vit pas là pour le moment. L'idée est plutôt de créer petit à petit une dynamique positive autour d'une agriculture locale. D'où la création d'une association dont fait partie la famille ainsi qu'un paysagiste français installé en Roumanie de longue date. On écoute Nicolas Triboy.
On n'a pas trop vendu parce qu'on n'avait pas toutes les autorisations et tout, mais on a beaucoup produit justement pour voir si on était capable de produire. Donc la serre, c'était plein, autour, c'était plein. Et on a fait toutes les conserves, les bocaux, tout ce qu'on a là, qu'on consomme entre nous. Mais c'est tout produit ici, et bio, quoi. On n'a jamais traité, rien. C'est-à-dire qu'ici, on ne veut pas juste faire du maraîchage bio. C'est ça, on pourrait le faire dans n'importe quel champ. Ici, on a quand même un paysage qui a une histoire. Et du coup, ce site, il faudrait vraiment le faire vivre par d'autres activités.
Une famille de fermiers s'est installée sur place, pratique le maraîchage et la ferme compte aujourd'hui des cochons, des poules et des chevaux. Un atelier de transformation de fruits et légumes est aussi envisagé. Autre idée, organiser comme cette semaine des ateliers paysage et agriculture avec des volontaires venus d'un peu partout pour prêter main forte et faire vivre le domaine. Un avant-goût de ce que peut devenir ce lieu. Car l'association mise sur l'écotourisme en complément de l'agriculture, Nicolas Triboy.
L'idéal, ça serait ça, tu vois. Qu'il y ait toujours 20 personnes qui mangent tout le temps des choses d'ici et qui découvrent ce territoire. Tu vois, il reste pas juste dans le parc. Du coup, tu redécouvres la plaine, c'est Tom Sawyer, quoi. Puis si tu descends plus bas vers le Danube, c'est le Mississippi de l'Europe. Moi, je le répète toujours, mais. On est dans une activité culturelle. Enfin, tu vois, c'est agriculturel, quoi. On est vraiment dans du.
Championne de l'agriculture vivrière, la Roumanie est de plus en plus frappée par l'accaparement des terres et des impératifs de productivité. Mais qui sait si une nouvelle voie n'est pas en train de s'ouvrir avec de telles initiatives à portée locale et durable, visant à redonner vie à des lieux historiquement oubliés.
Un reportage réalisé avec l'aide de l'Union européenne. À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous suivre sur RFI.fr et sur notre page Facebook.